Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui encore, c'est un chroniquard, quasiment en direct de la Garonne Expose. Et nous recevons aujourd'hui Simon, qui nous présente l'association Yalinov. Yalinov, association écologique, artistique et créative ô combien. Association dont l'activité principale, dont nous allons beaucoup parler, c'est le Balancing Art. Alors moi, j'ignorais complètement ce nom, presque autant que ce qu'il désigne, l'art éphémère de faire des compositions à base de minéraux, de pierres, de galets, etc., en les assemblant sans les fixer, en aucune façon. Ni ciment, ni colle, ni clou, ni vis, ni lien d'aucune sorte. C'est pourquoi, bien sûr, ces œuvres sont éphémères et pourquoi ces créations sont immortalisées par la photographie. Photographies qui sont visibles sur le site de Yalinov, bien sûr, hein, Yali2n, comme innovation, 2n donc, O-V-E, Yali2n-O-V-E. Pourtant, vous ne verrez pas, ni sur le site, ni à l'expo de la Dorade, le premier ou la première photo de ces fabrications extraordinaires, parce qu'elle est chez moi, j'ai pas pu résister, je l'ai détournée vite fait. Alors je m'explique, il y avait de quoi craquer. Alors, ça représente, enfin moi je vois dans ce tableau qui est la photo de cette réalisation à base de galets, je vois une dame qui a l'air de flanquer une raclée à un monsieur qui semble un peu se protéger du coude. Mais ça, c'est mon côté MLF. Peut-être que c'est seulement un couple qui fait une passe de rock. En tout cas, leurs bras font un pont. Et ça, en matière d'architecture, un pont comme ça, sans clou ni vis, sans ciment ni rien du tout, eh ben, c'est une arche romane. Alors c'est déjà un sacré tour de force. Alors savoir si c'est une ode au féminisme actif et défensif ou une passe de rock, je sais pas. Mais ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est pour ça que j'ai craqué, vous la verrez pas, elle est chez moi. Voilà. Maintenant, il y a une vingtaine d'autres œuvres que vous pourrez voir à la Dorade et sur le site. Alors, il y a une balançoire devant le feu. Devant un beau feu qui réchauffe l'hiver, on voit un gros galet bien rond, sur lequel tient en équilibre une autre pierre, longue et quasi rectangulaire, appuyée sur le galet rond par un point décentré sur sa gauche, ce qui est déjà surprenant. Mais par-dessus, deux autres pierres semblent se faire face, comme des enfants sur une planche à bascule se font face et se soulèvent alternativement en tapant du pied quand ils touchent le sol pour faire monter le copain installé à l'autre bout de la planche. La pierre de gauche est plate et tient sans problème. Mais la pierre de droite pourrait passer pour un œuf si elle n'était pas d'un bleu foncé magnifique. Et tour de magie particulier, cet œuf bleu tient sur son petit bout. Mais je ne sais pas si la bascule fonctionne. Simon fait signe que non. Vous n'avez pas essayé. Oh ben, pourtant, moi j'aurais essayé. Bon, enfin. Et puis maintenant, on a un menhir. Un menhir qui fait des pointes sur un ballon de rugby. Sur un gros galéron, on retrouve notre œuf bleu, posé un peu sur le côté, sur la partie pentue du gros galet. Là aussi, c'est déjà prodigieux. Mais ce n'est rien encore. puisque par-dessus tient le menhir, posé de sa pointe sur l'œuf bleu. Ne me croyez pas? Allez voir sur le site. Je vous assure, il y a un menhir qui tient par sa pointe sur un œuf. L'œuf bleu qui est un galet, bien sûr. Mais quand même. Il y a aussi le gruyère porteur. Alors le gruyère porteur, eh bien, on connaît cette pierre à trous qui ressemble à un os de seiche becqueté par les moineaux. Mais c'est une pierre. Une pierre volcanique très légère, c'est même la même chose que la pierre ponce de nos salles de bain. Mais les trous de cette pierre-là sont assez gros. Sur un creux de cette pierre se cale un gros galet ovoïde, debout, et lequel porte sur son autre extrémité, je dirais, une table, un plateau, de silex. Peut-être de silex, on n'est pas sûr. Alors, ce sera une table évidemment irrégulière, elle n'est pas rabotée. Elle est plus épaisse à gauche et plus aplatie et mince à droite. Sur laquelle table sont posés aux extrémités un superbe galet rouge veiné en forme d'œuf, à peine aplati. Et de l'autre côté, un autre galet qui fut peut-être parallélépipédique dans une autre ère avant que Garonne ne joue avec. Mais comme ça ne suffit pas, sur ces deux petits galets de part et d'autre, sur ces deux petits galets est allongé confortablement un gros galet bleu-noir, veiné de blanc, qui pourrait évoquer une tête de chien, vous savez, du genre lassis. Donc une tête de chien genre lassis, avec un long museau donc. Bon, s'il a un long museau comme la tête de chien, il aura peut-être des tout petites oreilles, parce que là, ben, on peut pas tout faire à la fois, faire un museau de chien et des oreilles en même temps dans le silex, c'est pas évident. Bon. Par contre, l'œil y est. L'œil creusé probablement par un choc planétaire et souligné par une veine blanche. Une autre grosse veine blanche évoque peut-être la lèvre ou la moustache de ce toutou à l'air méfiant et je dirais même prétentieux. Forcément, quand on arrive à ce genre de figuration, on ne se sent plus. Il y a encore deux autres tableaux suivants qui se ressemblent et qui nous amènent au bord d'une rivière. Ça doit être, c'est pas la Garonne, c'est pas assez large, donc ça doit être l'Ariège. Simon nous dit qu'il s'agit bien de l'Ariège. L'Ariège où, en vidéo, on voit notre artiste qui fait son cairn à la vitesse démultipliée de sa caméra. Impressionnant! Il monte 9 galets presque plats les uns sur les autres, bien que la première pierre du bas, donc, ne soit pas tout à fait plate, ce qui menace gravement l'ouvrage. Mais ça tient! L'autre pile compte aussi 9 pièces et la logique voudrait additionner les pièces de la plus grande à la plus petite. Eh bien ici, à la fin, c'est le contraire. Car après un tout petit coquillage, c'est une grosse pièce, un gros œuf de granit sans doute, qui se trouve en équilibre sur le petit bout, planté sur la petite pièce qui était au dernier étage. Et personnellement, moi, je vois dans l'ensemble, je vois un personnage avec les bras croisés ou presque, que font deux pierres plates, les bras croisés et assis en tailleur sur le rocher qui figure les jambes pliées. Et après l'Ariège, est-ce que vous aimez le café fort, léger ou équilibré? Si vous deviez réaliser la 6e composition, vous le préféreriez sans doute léger, car il ne s'agit pas seulement de café, dont les grains sont répandus sur la table, ni de la tasse qu'il y a à côté. Il s'agit bien du moulin à café de nos grands-mères, en bois, avec tiroir de réception, manivelle, et ce qu'on pourrait appeler le magasin de chargement, à savoir la demi-sphère métallique qui permet de charger le moulin en graines de café. Et bien sûr, tout ça, ça pèse. À vue de nez, pas loin d'un kilo. Et le moulin n'a pas posé son fondement sur la table, non. Il joue les acrobates. Il fait des pointes sur un angle de sa base. Et la lourde manivelle en métal et sa poignée en bois qui pendent sur la droite faussent complètement l'équilibre qui dépend de la symétrie des poids. Il y a une question de physique là-dedans qui n'est pas possible à résoudre. Mais si, Simon va résoudre ce problème. C'est inimaginable. Si on ne voit pas l'image que vous retrouverez sur le site, on ne peut pas imaginer. Mais vous pouvez la retrouver aussi sur l'affiche de la Garonne Expose pour notre exposition du 31 janvier au 19 février à la Maison des Associations. On vous redira ça d'ici là. Alors, notre artiste a planté son moulin par la pointe sur une petite pierre qui me semble pleine de mica multicolore. Jolie, jolie. Mais oui, je vous assure, le moulin à café tient sur une de ses pointes. Et puis quand on a bu ce qu'il y avait dans la tasse à côté, on peut s'amuser avec la tasse, maintenant qu'elle est vide. Alors sur la pierre à mica, l'artiste a posé confortablement la tasse. Enfin, confortablement, c'est vite dit, parce qu'en fait, elle est posée sur son anse. Oui, oui. Son anse qui offre évidemment un contact d'à peu près, j'ai l'impression que je suis généreuse là, d'à peu près un tiers ou un quart de centimètre carré avec la pierre. À ton avis, c'est beaucoup plus petit que ça, beaucoup plus réduit que ça, le contact.
Ah oui, c'est tout petit, oui. C'est tout petit.
Ça tient de la tête d'épingle.
Ouais, c'est ça.
C'est fou, c'est vraiment fou. Et puisque ça tient, pourquoi se gêner? On rajoute 3 grains de café par-dessus, sur la tasse, là-haut, sur la partie bien pentue qui amorce le fond de la tasse. Les 3 grains sont bien sûr posés les uns sur les autres, le plus haut semblant presque voler au-dessus du chef-d'œuvre.
Oui, j'en ai fait tomber un paquet de grains de café avant d'arriver sur celle-là. Comme c'est très petit, les grains de café, pour les superposer, c'était vraiment pas évident. Mais bon, on y arrive, à force de persévérance.
Mais les grains de café, finalement, on doit pouvoir faire des tas de choses avec, parce qu'il y a une partie qui est presque plate, la partie fendue.
C'est vrai. Hein,
c'est vrai. Et l'autre qui est...
Bon, plus ronde.
Moi, je faisais des coccinelles avec les grains de café.
Ah, oui, ça fait un peu coccinelle.
Oui. Et puisqu'on a commencé le repas par le café, on va le continuer par le dessert. Sur une superbe planche à découper, on a posé une noix. On y appuie un casse-noix en forme de pince, les poignées touchant la planche et la pince reposant sur la noix. Vous y êtes là? Oui? Vous suivez? Bon. C'est pas beaucoup une noix pour un dessert. Alors on y rajoute 3 noix et même une noisette, lesquelles sont bien sûr les unes sur les autres, le contact se faisant sur la charnière des noix. La charnière, vous savez, c'est le renflement qu'il y a tout autour et par où s'ouvre la noix quand on appuie dessus, quand on ne l'écrase pas à coups de marteau. Alors, les noix en question donc sont les unes sur les autres, le contact se faisant sur la charnière, ce qui est proprement invraisemblable. Et la petite noisette tout là-haut qui n'a pas de charnière attend le tremblement de table, assise entre la bosse de charnière de la dernière noix et une anfractuosité de cette coquine coquille.
Ouais, elle est vraiment belle cette photo. J'ai eu du mal aussi à la réaliser. Et comme vous dites, il faut jouer sur les structures un peu, sur la matière, sur les petites cavités qui permettent de superposer les noix les unes sur les autres.
Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et les plaines et les monts, les rivières et les vallons. On y voit toute une armée de soldats bardés de fer qui joyeux partent pour la guerre et fuyant l'orage des bois. On voit les chevaux du roi près de la rivière. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils. On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair, un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leurs tabliers, des abbés en bicyclette le 14 juillet en fête, et ta robe au vent du soir. On y voit des reposoirs qui s'apprêtent. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir, elle est découverte.
Et puis quand les noix sont fatiguées, elles descendent. Le casse-noix est couché à plat sur la planche à découper. Et les noix s'amusent à grimper dessus. Deux côte à côte sur le casse-noix, et la troisième qui se repose sur le creux entre les deux autres. Et la petite noisette contemple l'ensemble de son quatrième étage. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Voilà qu'arrivent par la gauche deux boules de fil tordu. Vous savez, ce fil genre câble électrique qu'on habille de textile ou de raffia pour faire des lampadaires que l'on vend dans les magasins branchés. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas faire la publicité pour les magasins en question, mais dans les magasins soi-disant écolo, champêtres, etc., on trouve beaucoup de lampadaires, de lampes. Non, pas des lampes de bureau, hein, parce que quand même la structure des fils entrelacés nuit à la luminosité.
Ah. Ah
oui. Mais bon, voilà. J'espère que vous voyez de quoi je veux parler. Alors, ces boules qui déboulent ici sont de la taille des balles de tennis à peu près, mais de forme beaucoup moins sphérique. Hein. Et elles présentent une structure très aérée, comme on dit, c'est-à-dire pleine de trous. Alors, il y a une boule qui est moins ronde que l'autre et qui s'installe à une dizaine de centimètres des noix. Et maintenant arrive en roulant les hanches une énorme pomme de pin, toute épanouie. Que faire avec ça? L'artiste la pose délicatement sur la boule pas ronde, exactement sur un nœud du fil qui se trouve là, sur le haut de la balle. Oui, là, si vous dessinez pas, si vous n'avez pas l'image... Oui, elle a un air penché, la pomme de pin. Très, très, très penché. Alors, pour assurer l'équilibre, sans doute, l'artiste charge la pomme de pin avec l'autre balle de fil, laquelle se retrouve alors non pas sur la pointe de la pomme de pin, mais carrément sur le côté, sur les extrémités des pétales, je ne sais pas comment ça s'appelle,
les pétales de la pomme de pin ouverte. Hein. Je dis pétale comme une fleur, hein, mais ça a un nom.
Il y a la graine à l'intérieur.
Il y a la graine à l'intérieur. Bon, voilà, c'est la précision qu'il nous fallait pour qu'on sache de quoi on parle. Oui, oui. Alors, elle se trouve à côté, sur les extrémités de ces espèces de pétales, bien ouverts, puisque la pomme de pin, elle s'ouvre en période de sécheresse, hein, quand c'est il ça. Fait chaud.
Voilà, hein. Et il y a le pignon à l'intérieur.
Et il y a le pignon à l'intérieur, et c'est très bon, le pignon de pomme de pin.
Ouais.
Voilà. Alors tout ça, c'est très joli, mais c'est pas sûr, et c'est pas confortable, ni pour les boules de fil, ni pour la pomme de pin. Alors, notre artiste, inquiet, glisse, je crois, à travers la boule de fil du haut, il glisse la tige d'un épi de blé qui passait par là. Cette tige tient bien entre les fils croisés et aérés de la boule. Et l'épi, qu'est-ce qu'il fait l'épi? Il pend vers les noix à droite. Mais si vous avez glané des épis bien mûrs pour vous faire des chewing-gums, comme moi quand j'étais gaffette, vous savez que les épis ont des barbes, ou barbules, qui sortent de l'épi à chaque rangée de graines. Ces barbules doublent la longueur de l'épi, depuis le deuxième étage de la boule ronde. Ces barbules viennent chatouiller l'équilibre instable des trois noix posées sur le casse-noix et de la pauvre noisette. Et je me demande si les barbules de l'épi ne sont pas, à cette construction, ce que la queue est au chat et le balancier au fil de feriste. C'est une question.
Ah, pardon. J'écoutais avec attention. J'étais bercé.
Ben, on dirait pas, hein.
J'étais bercé. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut prendre cette apparence. C'est vrai que le blé, là, apporte quelque chose de plus fin à la structure.
Ah, oui, mais ça, c'est, disons, ce plan esthétique. Mais la question que je me posais, oui, est-ce que les barbules, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, mais j'en suis pas tout à fait sûre, est-ce qu'elles touchent les noix ou pas?
Oui.
Ah oui.
Oui.
Donc elles font partie de.
Elles font partie de la structure. De je pense que si on enlève le blé, tout tombe.
Oui. C'est complètement dingue. Bon, on va peut-être passer aux légumes, sinon ils vont refroidir. Alors là, il y a trois tomates, un concombre et une carotte qui font là une espèce de courte échelle. Alors, une tomate est posée sur la table et le concombre est couché par-dessus pour faire le premier barreau de l'échelle. Avec à chaque bout du concombre, une des deux autres tomates restantes. Alors, la tomate la plus grosse est à gauche et la plus petite à droite, évidemment. Et par-dessus encore, en deuxième barreau, est posée la carotte. Mais les carottes, ça a une base large, enfin, assez large, en tout cas plus large que son extrémité. Forcément, ça ressemble à un fuseau, une carotte. Bon. Mais allez comprendre, la base large est posée sur la plus grosse tomate et la pointe sur la petite. Alors, même si sous les rondeurs de la petite, le concombre colle sa partie la plus charnue, l'équilibre semble compromis, logiquement. Eh ben non, ça tient.
Là où c'est compliqué, c'est avec des légumes, comme c'est pas rigide,
ah oui.
C'est des structures molles, du coup c'est très très compliqué à mettre en équilibre.
J'avais pas pensé à ça.
Ça dure pas, en général, pas très longtemps.
Ah, oui, bien sûr.
Mais...
Oui, oui, c'est vrai, la structure... Bon,
ça y joue beaucoup, la rigidité du matériau.
Oui, oui.
Plus c'est rigide, plus c'est facile. Une fois que c'est en équilibre, ça ne bouge pas. Après, les légumes, c'est plus compliqué.
Mais, oui, les tomates et tout ça, c'est souple. Hein.
Ouais, c'est souple, oui.
Plus c'est mûr, et plus c'est souple. Oh là là. C'est terrible. Alors, à Toulouse, on ne manque pas d'exemples d'architecture romane. Hein, Saint-Sernin, Pont-Neuf, Jacobin et autres lieux précieux. Alors, notre artiste jongleur, acrobate et architecte nous présente une application de la voûte romane, colorée et appétissante. Alors, il y a 7 éléments arqués en ail et tomate. Le 7e, tout en haut, comment ça s'appelle le point névralgique au milieu, en haut de la voûte romane?
C'est une bonne question.
Oui, ben la question me vient à l'esprit maintenant, je ne l'avais pas préparée. C'est dangereux, ce genre d'inspiration. Bon, enfin, disons, le point névralgique de la voûte est occupé par une tomate cerise. C'était ça? C'était une tomate cerise ou c'était simplement une petite tomate?
C'est une petite tomate.
C'est une petite tomate, oui. Parce que j'avais pensé à la tomate cerise parce que je me disais qu'elle allait être plus ferme.
Non, ouais.
Non, c'était d'autant plus méritoire.
Ouais.
Ouais. Donc, une petite tomate, bien rouge et craquante. Et ça tient. Ben oui, c'est la technique romane, hein, alors ça tient. Vous le voyez bien si vous avez ouvert votre ordi. Et voici une pyramide de fruits et de légumes. Alors, vous prenez un beau poivron ventru, bien installé, et dessus, vous couchez une poire. Une poire couchée avec une tige en crochet. Un crochet, évidemment, dans ce genre de construction, ça appelle un autre élément, hein. Bon. Cet élément sera un haricot vert qui évoque, avec la poire, une espèce de canard ou d'un autre palmipède avec un bec très long. Et comme ça ne suffisait pas à notre artiste, il a chargé le canard d'un lourd citron à la posture incroyable, penché sur la gauche, au mépris de son propre centre de gravité. Et coiffé, s'il vous plaît, d'une noix bien tranquille au 3e étage. Bien sûr, dans sa coquille, elle risque pas grand-chose. Mais c'est le citron qui me fait souci. La poire, j'admets qu'elle se soit fait un nid entre les boursouflures du poivron. Mais le citron, comment il fait? Je donne ma langue au chat.
C'est lui qui gère l'équilibre.
Ben oui, c'est tout simple, il fallait y penser.
Voilà.
Bon, oui, il y a des secrets professionnels qu'on ne divulgue pas.
C'est dur à expliquer. C'est beaucoup de sensations, donc on penche un peu à gauche, un peu à droite, et pour trouver le milieu. Et des fois, c'est vrai que ça peut paraître penché, mais c'est ça qui permet d'avoir l'équilibre au bout du compte.
Oui, mais enfin... J'ai tellement regardé cette photo, je me suis aperçue quand même, il y a quelque chose d'évident, c'est la verticale.
Oui. Hein,
on peut tracer une verticale parfaite depuis le milieu de la noix jusqu'à la base du poivron.
C'est vrai.
Voilà. Et bon, mais ça, c'est un peu la preuve par neuf, quoi.
Voilà. Oui, c'est vrai. Et le haricot aussi qui, je trouve...
Ah oui, le haricot, bah oui, c'est le balancier, hein, ouais. Un peu. Ouais.
Il est vraiment, pour le coup, sur un très petit point d'équilibre.
Ah oui.
C'est marrant.
Ouais. Et on arrive au 13e opus. Alors cette fois-ci, c'est-il des prunes, des brugnons ou des tomates?
Alors c'est des, c'est une pomme. C'est l'ananas, c'est ça?
Oui, c'est ça, l'ananas. C'est ça, c'est ça.
Ce sont des pommes, mais c'est des petites pommes, alors.
D'accord. Voilà. Eh ben, j'avais pas pensé aux pommes. Hein, parce que je me disais, c'est pas possible qu'un ananas, ils font tous à peu près, ceux qui arrivent ici, ils frisent le kilo, sinon plus. C'est pas possible qu'un ananas pèse sur des prunes. Elles seront explosées dans la minute qui suit, même plus tôt. Voilà, ce sont des pommes. Bon, et ben voilà, encore une fois, j'ai tout faux. C'est du solide, car c'est coiffé donc d'un bel ananas qui doit tourner autour du kilo, comme tous les ananas que nous importons donc. Nous dirons donc deux pommes serrées l'une contre l'autre verticalement, qui soutiennent un ananas très penché sur une de ses écailles de base. Alors, je me suis posé une question stupide, bien sûr. Il aurait sans doute supporté d'être posé verticalement sur la pomme du haut, car sa base semble coupée juste idéalement, comme il faut.
C'était trop facile.
Voilà, c'était trop facile. Et vicieux en plus. Bon. Ça aurait été moins spectaculaire. Là, l'ananas a l'air de danser. Et c'est très joli. C'est très joli. On peut faire des choses très très jolies avec un ananas. Bon, le problème, c'est que ça ne dure pas forcément pour une histoire d'équilibre, mais parce que ça se corrompt. Quoi.
C'est
ça,
vivant.
C'est vivant, voilà, c'est ça. Mais je me souviens que mes élèves avaient fait en étalage un tableau comme ça. Elles avaient fait voler un étalage. L'étalage, il a volé relativement rapidement après. Mais elles avaient percé une ananas ou un ananas. Je ne sais pas comment elles l'avaient fait parce que j'y étais pas. Mais quand je suis revenue dans la classe, ils avaient fait voler un ananas qu'elles avaient percé d'un fil de nylon. Enfin, le fil, d'accord. Je suppose qu'elles avaient dû faire des nœuds ou je ne sais pas quoi. Parce que le fil dont elle se servait, c'était un fil de couture, c'était pas possible, c'était pas assez résistant. Mais ça m'avait valu une bonne inspection, ça. Parce que personne n'avait jamais imaginé ça, quoi. Même dans les vitrines les plus chics, les plus artistiques, faire voler un ananas, ça ne se fait pas.
Non, c'est vrai, c'est bien vu.
Voilà, ben... Ton ananas, il vole le tien carrément. Quasiment.
Quasiment, oui. Il paraît léger, quoi.
Voilà, il paraît léger, c'est ça, alors que c'est vraiment lourd. Hein. Et à côté, il y a deux œufs qui font les malins. Évidemment, ils ne peuvent pas ravir la vedette à l'ananas. Mais pourtant, ils ont du mal. Ils ont du mal à se tenir l'un sur l'autre. Tellement que pour empêcher l'œuf du dessous de rouler, on l'a posé sur une plume. Oh, ça m'a plu, la plume. Et là, il est stabilisé et il porte fièrement l'œuf du dessus, qui est disposé sur son dos en perpendiculaire. Enfin, je ne sais pas si l'expression est juste. Ça permet d'apprécier la surface de contact qui est vraiment, vraiment minime. Et puis, il y a encore un autre empilement d'œufs. Alors, cet empilement, j'avais vu sur le site champion mondial ou...
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le record du monde était à 4 œufs les uns sur les autres.
Ah ouais.
Et voilà, je me suis dit, allez, on va tenter.
Et
j'y suis arrivé,
oui. Et oui. Ah, d'accord. Voilà.
Donc, avec la plume toujours dessus.
Avec la plume, voilà. Donc, voilà, vous avez compris. Au lieu de faire deux œufs, on en a mis quatre. Ils sont présentés sur une nappe. Et pour faire balancier, ben, il y a une plume là-haut sur le quatrième œuf.
C'est ça.
Bon. Et puis, on va se promener un petit peu. Et sur une plage... Il y a un murex, il y a une petite coquille Saint-Jacques. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est de la famille des coquilles Saint-Jacques, si on appelle ça une coquille Saint-Jacques. Moi, j'appelais ça un peigne quand j'étais gamine. Cette coquille rouge là, qui oui. est très jolie d'ailleurs, oui, oui. très
c'est,
fine.
C'est très joli, c'est pareil, je l'ai pris pour son esthétique, oui. mais c'est vrai que c'est une coquille.
Bon, un murex, c'est un gros coquillage, et puis la coquille Saint-Jacques, c'en est un plus petit. Et puis il y a ce que j'ai appelé un acni, c'est-à-dire un autre coquillage non identifié, par derrière. Le tout est bien posé, bien stabilisé sur le sable, un peu entassé les uns sur les autres. Et voilà l'extraordinaire. L'étoile de mer, comme vous n'en avez jamais vu, debout sur une de ses pointes. Elle est séchée, bien sûr, car si notre artiste est un virtuose des équilibres improbables, il n'est pas dresseur de fauves. Et je doute que les étoiles de mer obéissent à quiconque. N'empêche que celle-là, sèche ou pas, elle est debout, sur une de ses pointes, laquelle est à peine en appui contre la coquille du probable murex non identifié. Oui, ça. Alors, c'est un peu bizarre parce que quand on voit l'image, on n'est pas très surpris. Parce que l'étoile de mer, c'est un peu, je dirais, elle est banalisée par toutes les publicités de tour opérateur, etc. Tous les maillots de bain, toutes les décorations de maillots de bain ou de robes d'été ou de voilà. Il y a une étoile de mer et on s'aperçoit pas tout de suite qu'elle est debout.
Qu'elle est debout.
Et ouais. qu'elle est debout ouais. et qu'elle n'a pas de support. Elle est appuyée sur rien du tout. Ouais. Elle est debout sur sa pointe. Quoi. Mmh.
C'est assez harmonieux aussi la forme de l'étoile de mer. Donc c'est vrai que c'est voilà ça surprend pas trop.
Mais... Voilà ça ne surprend pas. Il faut vraiment étudier l'ensemble vraiment en détail pour s'apercevoir que c'est quelque chose de prodigieux.
Et la petite aussi, la petite, il y a une petite étoile de mer.
Ah oui, il
y a le bébé.
Oui.
C'est que j'ai rajouté à la fin et la touche de rouge qui rappelle le coquillage.
La petite coquille Saint-Jacques. Oui, alors là, c'est une petite étoile de mer, effectivement, qui est cramponnée.
Qui est cramponnée,
c'est vrai. Oui. Et elle a son importance dans l'équilibre, bien entendu. Tout à fait. Je l'avais oublié.
C'est pas grave.
Non, mais merci
de
le préciser, parce que sinon, ça tient pas.
Oui.
Ça, c'est certain.
Ça tient pas, et puis pour la couleur aussi.
Absolument. Alors, après la plage, on revient à Toulouse, au pont Saint-Pierre, où il y a un Bouddha qui nous accueille. Et le Bouddha, il a l'air de danser. Il tient en équilibre sur un genou, tout son corps étant penché sur la droite. On peut se demander pourquoi. Mais il y a une légende qui nous informe. Bouddha est à l'écoute de ce qui se passe dans la coupole de la grave, derrière le pont. Tout s'explique. Alors bon, c'est un jeu aussi avec la profondeur de la perspective. On dirait effectivement que Bouddha a l'oreille collée contre la coupole.
Ouais. C'est le bon angle.
C'est le bon angle, voilà. C'est une illusion, mais l'ensemble est très réussi. Alors ensuite, moi j'ai découvert ce qu'est la kalimba. Je crois que je connais le son, mais je ne connaissais pas le nom. Et ben... j'ai appris que la kalimba est un instrument de musique africain et dans l'exercice d'équilibre qu'on va vous détailler, elle danse toute seule sur un angle de sa table, de son plateau. Table qui est très joliment travaillée. Elle semble plantée là, dans un creux d'une pierre amica. La pierre amica, je cherchais tellement ce que c'était et j'ai trouvé que ça s'appelle l'épidolite.
Ah, voilà, c'est peut-être c'est ce nom que
ça
j'avais...
Ça te dit, c'est le nom voilà, que tu ça. Avais trouvé, voilà.
C'est ça.
L'épidolite,
l'épidolite.
Voilà. Alors, dans un creux de la l'épidolite, la kalimba a planté sa pointe. Mais vu la surface de l'instrument et la petitesse de la pointe, le tour de magie reste mystérieux. Oui, ça n'a pas dû être commode, hein, parce que... Elle est tout d'un bloc, et puis la kalimba en question, son poids est très inégalement réparti.
Ouais.
Parce qu'il y a toutes les lamelles qui sont en métal, hein, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça.
Toutes les lamelles, et puis, comment on appelle ça, ce qui les supporte, je crois que c'est pas un chevalet.
Ça doit s'appeler
c'est,
dans ce...
C'est ouais. comme la guitare,
ouais,
en fait.
Comme
hein,
la guitare,
ouais. Voilà. Voilà, et tout ça, c'est sur le même côté. C'est diabolique.
Ouais, mais il faut... On y arrive, avec patience.
Alors après, il y a une... J'ai pas l'explication. Tout simplement, je ne sais pas quel est l'objet de ce tour de force d'équilibre. Est-ce que ce sont des jumelles? Est-ce que c'est une caméra, un appareil photo? Je sais pas. En tout cas, moi qui suis si soigneuse et si jalouse de mes appareils, j'essayerai jamais de faire un truc de ce genre. Cet appareil, donc, qui ressemble à des jumelles, eh ben, il tient sur... pareil, c'est comme les œufs, il tient sur un dixième de millimètre carré, quoi.
Exactement.
C'est la folie.
C'est ça.
Non, mais c'est quoi? C'est pas un vrai appareil?
L'appareil photo, là,
oui.
Vous parlez? Si, si, c'est un vrai appareil. Mais je suis pas... à côté, je suis à côté. Et en fait, voilà, j'ai pris une photo, en plus, en même temps. Ça fait une photo équilibrée, du coup.
En même temps?
Non, ça fait un angle particulier. Une photo équilibrée.
Aïe, 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 aïe. Eh bien... Bon. Oui.
On s'amuse.
Oui. Voilà, je commence à avoir un peu peur. Je me demande qu'est-ce qu'on va encore apprendre. Alors, on arrive à la Saint-Valentin, qui n'est pas toujours simple. Alors là, on voit d'abord un morceau... Eh bien, ça ressemble au morceau de coque qu'on mettait dans la chaudière quand j'étais petite. Un morceau de charbon. C'est ça?
Que je me rappelle...
Enfin, c'est une pierre noire.
Ouais, c'est
quoi.
Une pierre noire.
Une
ouais,
pierre noire,
ça.
Oui. Mais bon, comme elle a l'air d'avoir d'être un peu feuilletée, elle brille un peu, ça m'a rappelé le coque. Mais,
d'accord.
Voilà. Bon. Alors, ce morceau de... Enfin, cette pierre noire supporte sur une surface... j'ai mis un centimètre carré, mais c'est forcément moins. Un vase extrêmement penché. C'est un vase en forme de cône. Alors, il tangue, hein. Il va tomber, hein. Il est coincé, il est pressé entre... la pierre noire et un cœur de pierre, pierre orangé ou sanguinolent, je ne sais pas comment je devrais dire. Enfin voilà, il est pressé sous l'étreinte d'un cœur de pierre. C'est dramatique. Et ce cœur de pierre le serre ce vase sur le côté gauche, alors que sur la droite, il y a deux roses magnifiques qui sortent du vase et qui ont l'air d'avoir été rejetées. Elles ont un air triste. Il y a la fleur, enfin les deux fleurs qui penchent, qui ont l'air fanées. Elles sont en train de faner. Il ne doit plus y avoir d'eau, comme le vase est quasiment renversé. Il ne doit plus y avoir d'eau, etc.
Elles ont vécu.
Voilà. C'est dur des fois, la Saint-Valentin.
C'est vrai que... Ça peut paraître un peu triste, cette...
Ça peut paraître un peu triste, oui. Voilà. Alors, vous avez 20 échantillons des tours de force qui est capable de réaliser notre invité. Mais il a beaucoup d'autres cordes à son arc, en particulier par le biais de l'association, donc...
Yalinov.
Yalinov, voilà. Parce que, oui. Tu peux nous parler de Yalinov et de ses possibilités.
Déjà, Yali Balance, Yali, c'est le personnage que j'ai créé en tant qu'artiste. Et j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Yalinov, Innov comme innovation, Yalinov. Et dans laquelle, en fait, je soutiens des projets en faveur de l'environnement. Et donc là, j'ai créé une association où on plante, on reforeste. Voilà, on fait de la reforestation avec des plantes comestibles, style forêt comestible, jardin forêt. Voilà, et en fait, mes photos, j'essaie de mettre en valeur, comme vous avez pu le décrire ou le percevoir. J'essaie de mettre la nature en valeur, que ce soit avec des aliments ou avec des pierres, avec des éléments naturels pour la mettre en valeur. Et donc on défend un projet derrière en lien avec l'environnement, la protection de l'environnement. Donc on se sert, on met l'art en avant pour faire passer des messages aussi, parce que c'est important pour nous. On joue sur plusieurs facteurs. On plante des forêts, mais on fait aussi de l'art, de la musique, également des petits objets éco-responsables. On a une petite boutique où c'est qu'on vend nos objets et notre art au profit de l'association.
Oui. Oui, j'ai vu des objets, des contenants, des pots, voilà, des vases, qui sont faits à partir de quels matériaux ?
Alors, c'est en impression 3D, c'est avec des matériaux PLA naturels, donc issus de betteraves, de blé ou alors de plastique recyclé.
Oh là là, explique-nous ça.
Eh bien, en fait, le PLA, c'est une matière naturelle qui est utilisée... pour les poches qu'on utilise pour les légumes, là, dans lesquelles on met nos légumes, qui se déchirent. Voilà, ça, c'est du PLA. Et donc
PLA,
c'est
fait... ça veut dire quoi ?
C'est polyphénol, je crois, ou quelque chose comme ça.
Polyphénol, c'est de la cellulose ?
Ouais.
Ouais,
d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un matériau qui est écologique, dans le sens où ça reste une matière naturelle et ça évite d'utiliser trop de plastique. Okay. Donc voilà, et puis on travaille avec d'autres produits qui sont partagés avec des récupérations de marcs de café, tout ça qu'on incorpore à l'intérieur pour avoir une matière encore plus renouvelable. Donc voilà, on vend ces petits pots aussi concrets pour l'association.
Et cette création, ces contenants sont durables ?
Ces contenants sont durables, ils durent très longtemps.
Ils
durent très longtemps. Ils sont recyclables, donc on peut ensuite les recycler, ou compostables dans certaines conditions. Mais après, ça dure très longtemps. Moi, j'ai des pots depuis 2-3 ans qui n'ont pas bougé.
Ah oui ?
Ouais.
Et tu arroses, je suppose, le végétal qu'il y a dedans ?
Alors, soit on met le végétal directement dans le pot et on arrose comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Soit on peut s'en servir de cache-pot et mettre une petite plante à l'intérieur.
D'accord.
Voilà. Et après, ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est que on peut, si on a une pièce qui est défaillante, on peut la recréer.
On peut,
voilà, l'imaginaire, on peut faire plein de choses, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est intéressant.
L'arrivée sur le marché, qui est quand même assez réduit, de l'imprimante 3D, ça m'a complètement ahuri. J'ai rien compris.
C'est vrai que c'est un peu nouveau, même si ça fait un moment que ça existe, mais aujourd'hui ça s'est un peu démocratisé. On peut trouver des imprimantes pas trop plus accessibles, on va dire. Et oui, c'est innovant. Nous, c'est ce qu'on aime aussi, c'est qu'on ait quelque chose d'innovant et qui prenne en compte les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. C'est une solution, je pense, qui à terme peut être intéressante, surtout si on arrive à recycler le plastique. Voilà, ça serait super intéressant. Donc nous, on essaye de développer, de faire des choses et de montrer qu'on peut faire plein de choses à base grâce à l'imprimante 3D, à l'impression 3D. Il y a même des maisons aujourd'hui qui sont faites en impression 3D avec des grosses imprimantes. Donc on pourrait.
Ça doit être une grosse imprimante.
Ouais. Donc c'est pour ça que quand je dis que l'impression 3D, c'est, il n'y a pas vraiment de limite en fait. On peut vraiment faire plein de choses avec. Oh. Et ça peut être très intéressant pour le futur. Après, à voir voilà, comment ça se met en place. Mais nous, on essaie vraiment de le porter dans le bon sens pour la planète.
Voilà, ouais. Je crois qu'il y a 10 émissions à faire sur la question.
Ah oui, c'est un grand sujet, c'est un gros sujet.
Ouais. Si tu veux d'autres plages ouais, pour nous expliquer ça.
Avec plaisir.
Ça, tu l'auras. Hein.
Avec plaisir.
Ça, alors.
Ouais.
Non, parce que là, déjà qu'en informatique, je patauge lamentablement. Alors là, quand j'ai vu arriver le 3D, j'ai dit, bon, là, c'est temps que j'arrête, quoi.
il en faut pour tout le monde. Ouais.
Moi, il y a quelque chose qui va beaucoup intéresser les auditeurs aussi. Parce que la 3D, ça, tout le monde va accrocher, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose de mystérieux. Enfin, de mystérieux, non. Mais de très séduisant pour les auditeurs, c'est le travail musical. Et l'encadrement musical.
Alors oui, on a mis en place un encadrement et un accompagnement pour des artistes qui souhaiteraient justement faire de la musique et promouvoir leur musique, mm-hmm. tout en soutenant des projets en favorisant l'environnement. Donc voilà, on soutient des artistes, on l'a fait pendant un moment, là ça s'est un peu calmé. Mais voilà, on est dans cette démarche de créer un groupe d'artistes qui soit engagé pour la préservation de l'environnement. Donc pourquoi pas faire des concerts ou des choses comme ça, récolter des fonds.
Oui.
Voilà, on cherche des artistes engagés.
Bah, j'en connais quelques-uns.
Ouais.
Oui, on va essayer de faire un branchement là.
Mais ce serait super.
Oui.
Ce serait super. Voilà, on joue sur tous les tableaux.
Absolument, absolument. Et je crois que est-ce que j'ai bien compris, vous avez une activité d'entretien, de jardinage bio.
Ouais.
Chez les particuliers.
C'est ça, tout à
c'est
fait.
Ça. Ah oui, j'ai bien compris.
Parce que voilà, on plante des forêts, mais aussi c'est intéressant pour nous. Enfin, on y tient aussi de ramener de la nature en ville. Donc, on propose aux gens d'avoir un jardin utile et comestible. Donc, on crée des potagers, on crée des designs pour les gens, parce que ça, c'est mon métier de base. Je suis paysagiste, donc ça me permet de proposer des jardins qui soient intéressants pour avoir des récoltes aussi, parce que c'est toujours intéressant pour les gens, et d'avoir un jardin esthétique. Donc on essaie de lier l'esthétisme et le comestible. C'est ce qu'on propose avec l'association.
Ça, voilà. C'est hyper intéressant.
Oui. Ben on se dit que quitte à planter, autant planter des choses qui soient comestibles et qu'on puisse récolter derrière. Mm-hmm. Comme ça, il y a double profit.
Je me souviens avec émotion d'avoir vu il y a une bonne vingtaine d'années, en arrivant par le pont. Comment s'appelle le pont qui va de du fer à cheval au tribunal. C'est bon, il y avait à l'époque une espèce de passerelle immonde, et en dessous la passerelle immonde, il y avait un chef-d'œuvre de choux, de légumes.
Mm-hmm.
Qui poussaient.
D'accord.
Dans la nuit avait été montée une plate-bande qu'on avait garni,
planté, ouais, garni.
Qu'on avait planté.
D'accord.
moi j'arrive là. je me demandais si j'avais une hallucination.
Si c'était un rêve.
c'était un rêve, oui, oui. Et en fait, il y en avait plusieurs. Bon, moi je passais par là tout le temps, mais il y en avait plusieurs.
Ah ouais, non,
mais et ça. Bon, mais ça n'a pas duré.
Ouais.
Ça n'a pas été
l'initiative
répété, est... mais ouais. c'était très poétique. Et puis, bon, c'était marrant de voir cette réussite tellement enthousiasmante. En dessous, une espèce de construction en ferraille immonde, bon, qui a été démontée depuis, heureusement. Mais moi, je regrette les choux et les qu'est-ce qu'il y avait. C'était très coloré. Non, il n'y avait pas des tomates. On ne peut pas transplanter un plant de tomates comme ça la nuit, non.
Ouais.
Mais les choux colorés, il devait y avoir des fleurs mélangées avec les légumes. Mais il y avait des choux, des poireaux, etc., des salades, oui. Et bon,
d'accord,
maintenant,
je ne l'ai pas vu, ça. Ah ouais. Okay.
Ben, je dis, il y a une bonne vingtaine d'années. Bon, c'était avant qu'on démonte...
Ah, ben, ils étaient précurseurs, alors, parce que...
Oui, avant qu'on démonte la passerelle.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu.
Ah ouais.
Nous allons avoir un échantillon de la musique que vous proposez.
C'est ça.
Il faut savoir sauter à l'eau parfois, même quand l'on n'a plus pied. Et voir ce que l'avenir nous dira. Suivre les signes et garder la foi. Ce que tu cherchais au fond de toi.
Je crois que Chroniqueur va se fermer. Donc pour aujourd'hui, on en a terminé. J'espère que vous avez fait le plein de rêves. Et donc, si vous n'étiez pas en possession de votre écran, vous pouvez le retrouver dès que vous rentrez chez vous. Sur le site, vous avez toutes les images que vous voulez.
Vous pouvez me retrouver sur le site de l'association, justement, Yalinov.
Bon, eh bien... J'ai appris énormément de choses et dès que tu as envie de revenir pour nous parler du monde en 3D que tu peux nous fabriquer, eh bien, tu prends le micro, il n'y a pas de problème.
Ben ça sera avec plaisir.
Oui, vraiment. Et puis, nous donner des nouvelles de ton association, etc.
Tout à fait.
Les diverses activités et leurs résultats et... Voilà.
Ben là, on va entamer une deuxième plantation de forêt. Donc,
attaque
notre deuxième projet. Donc, ça, c'est super.
Oui, ben ça, voilà. J'aurais bien voulu entendre parler des forêts parce qu'une forêt.
C'est du boulot.
C'est pas un petit bois, hein. C'est une forêt. Alors.
Il y a toutes les tailles, mais.
Oui, il y a toutes les tailles. Ce que vous avez travaillé déjà, ça a atteint quelle surface?
Nous, on est sur à peu près un hectare à côté de ces casères, vers casères,
ah ouais.
Au niveau de carbone, un peu après carbone. Et donc la forêt fait un peu moins d'un hectare. Il y a 300 arbres à peu près, arbustes qu'on a plantés.
Vous avez planté 300.
On a commencé l'année dernière et donc là, ça commence à prendre forme. Donc voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre et la visiter, c'est avec plaisir.
Ah oui, absolument. Absolument.
Et on a commencé quelques récoltes déjà. Voilà.
Et cet hectare, ça vous appartient ou vous avez fait ce travail pour un particulier?
Alors nous, on est en collaboration avec un partenaire qui nous met à disposition le terrain. Et nous, on plante et derrière, nous, ça nous permet de nous faire connaître et de réaliser ce projet de forêt comestible. Donc on cherche d'autres terrains, que ce soit, on aimerait bien sur Toulouse ou aux alentours. Créer une autre forêt comestible. Donc voilà, on investit des lieux qui soient soit défrichés, soit des terres agricoles. On s'implante là où on peut et là où on veut bien de nous. Voilà, on fait tout pour améliorer oui. ce monde et agrader le milieu
oui.
dans lequel on est.
Il y a des jardins partagés où vous pourriez faire... un peu œuvre pédagogique.
Et du coup, voilà, nos forêts comestibles, c'est aussi un endroit pour expérimenter, mais c'est aussi un endroit pour transmettre des valeurs.
Oui.
Donc on fait aussi des ateliers, des petites formations pour apprendre aux gens aussi comment replanter des forêts comestibles et prendre en compte les écosystèmes, sensibiliser aussi aux écosystèmes, notamment aux jeunes.
Oui, mais c'est formidable parce que c'est un projet porteur d'espoir, magnifique, vraiment magnifique.
On essaye, on garde espoir. En tout cas, on est dans l'action, on fait.
Eh bien, bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour les équilibres inimaginables et incroyables. Et bravo pour la démarche écologique et j'allais dire sanitaire, mais c'est un mot qu'on entend trop en ce moment, alors on va éviter. Mais non, je ne trouve pas le mot. Généreuse et humaniste. Voilà.
C'est bien dit.
Bravo, bravo à toi.
Merci.
Et bravo à tous.
Merci.
Merci beaucoup,
Daniel.
À vous.
Merci.
Et à bientôt, donc.
À bientôt.